L'Europe, aujourd'hui, c'est le deuxième pollueur après la Chine. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé de remonter les 10 plus grands fleuves d'Europe pour cette mission. Dans la mission, en fait, on va avoir deux aspects. Le premier, ça va être de quantifier ces plastiques pour savoir ensuite prédire où est-ce qu'ils vont aller dans les océans. Et le deuxième aspect, ça va être d'évaluer, en fait, l'impact de ces plastiques sur la biodiversité.
La goélette de la Fondation Tara a largué les amarres le 8 juin dernier, avec à son bord une équipe de scientifiques. Vous connaissez sans doute cette fondation qui a étudié tour à tour ces 15 dernières années les pôles, le plancton et les coraux. À chaque fois, ces découvertes ont eu les honneurs des publications scientifiques. Cette fois-ci, le voilier parcourt 10 fleuves européens sur les traces de la pollution au plastique. Pendant 6 mois, les chercheurs prélèvent, échantillonnent et analysent des quantités d'eau de la Tamise, de l'Elbe, du Rhin ou encore du Rhône. Un chiffre résume tout. 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et beaucoup transitent par les cours d'eau. Parmi eux, il y a une écrasante majorité de déchets plastiques. Si l'on veut nettoyer les océans, il faut donc enrayer cette source de pollution. D'où viennent exactement ces plastiques? Sous quelle forme arrivent-ils dans la mer? Quel est leur impact sur la faune et la flore aquatique? Est-ce que toute la chaîne alimentaire est contaminée? Ce sont ces questions que se posent les scientifiques à bord de Tara.
On ne sait pas du tout si l'espèce humaine est réellement touchée par ces plastiques-là. Mais ce qu'on sait, c'est que les organismes que nous consommons, eux, sont touchés.
Sophie Bécherel et Fabien Gosset ont pu monter à bord de la goélette Tara entre Saint-Malo et Londres. Ils ont navigué sur la Manche et sur la Tamise. Ils ont vécu au milieu des chercheurs et des marins une aventure humaine et scientifique.
Là, on est vraiment au cœur de la ville. C'est un peu un privilège de se balader sur la Tamise comme ça. On est dans un James Bond un peu là.
Tara, sur la piste du plastique, c'est un reportage de Sophie Bécherel avec Fabien Gosset à la prise de son.
France Inter. Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Alors là, on est ce qu'on appelle dans la cale avant. C'est un peu le fourre-tout ici, où il y a à droite des poireaux, des oranges, des ananas. De quoi survivre en fait pendant l'expédition. Et puis à gauche, on sépare bien quand même l'alimentaire du scientifique.
À chaque équipe scientifique, son matériel?
Alors, l'ambiance sur Tara, c'est de dire que chacun travaille pour tout le monde. Donc, chaque équipe scientifique amène son matériel, effectivement, mais il va être utilisé par tout le monde. Donc, tout le monde doit savoir tout faire.
Jean-François Guéguillon est le responsable scientifique de Tara Microplastique 2019. Directeur de recherche au CNRS, il travaille au laboratoire d'océanographie microbienne à Banyuls. Et à quelques heures du départ, il vérifie que rien ne manque dans la cale avant de la goélette.
Vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de plastique, alors qu'on travaille beaucoup sur le plastique, parce que... En science, c'est qu'on a besoin de ces plastiques à usage unique. Et on se faisait la réflexion avec Alexandra tout à l'heure en voyant tout ça, en se disant il va falloir quand même que nous aussi, dans nos labos, on arrive à faire un effort pour en consommer moins.
Oui, parce que là, il y a combien de flacons en tout jetable? Il vous en faut combien pour 6 mois de mission?
On prévoit plus de 10 000 échantillons. On sait que ces tubes-là résistent, par exemple, à l'azote liquide, qui vont être faciles à transporter, que si on utilisait du verre, typiquement, on a toujours peur que ça se casse et de perdre nos échantillons qui sont si précieux. Donc, on est un peu obligé de passer par là. Voilà, donc on a un peu de tout, on a nos pipettes, on a toutes les choses qu'on retrouve dans nos labos. En fait, l'idée, c'est de reconstituer un laboratoire dans un voilier. Et voilà, c'est pas forcément facile parce que vous voyez, c'est assez spartiate ici, à la façon dont on vit. Mais on s'adapte, on arrive à travailler dans des endroits très très petits. La grosse différence aussi de pouvoir utiliser un bateau comme Tara, c'est que c'est très très rare d'avoir une mission océanographique qui va durer 6 mois. Avec un bateau océanographique classique, on a le droit à l'utiliser pendant 1 mois, 2 mois maximum. Mais comme ça, ça nous permet d'avoir une répartition géographique qui fait que Tara est Tara aujourd'hui. On a réussi à avoir un nombre de données dans le monde entier qui est reconnu internationalement, et c'est grâce au bateau. C'est pas seulement les scientifiques qui sont à bord, c'est grâce à cette disponibilité qu'on a du bateau qui nous permet d'aller naviguer dans tous les océans du monde, avec ça aussi cette flexibilité. Et puis cette super ambiance qu'on a sur Tara. Alors l'objectif de la mission Microplastique 2019 de la Fondation Tara Océan, c'est d'identifier les sources des plastiques qui envahissent nos océans. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 8 millions de tonnes de plastique qui arrivent des continents par an, c'est l'équivalent d'un camion benne par minute. Et on sait également que ces plastiques, pour la plupart, ils sont déjà sous forme de microplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui sont inférieurs à 5 mm et qui vont avoir un impact sur tous les maillons de la chaîne alimentaire. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est la base du projet, c'est que l'Europe, aujourd'hui, c'est le deuxième pollueur après la Chine. Donc c'est pour ça en fait, qu'on a décidé de remonter les 10 plus grands fleuves d'Europe pour cette mission.
Quel est précisément le rôle des fleuves dans cet apport de plastique vers l'océan ?
Eh bien, c'est vraiment ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. Dans la mission, en fait, on va avoir deux aspects. Le premier, ça va être de quantifier ces plastiques, d'essayer de voir leur composition pour savoir ensuite prédire où est-ce qu'ils vont aller dans les océans. Et le deuxième aspect, ça va être d'évaluer en fait, l'impact de ces plastiques sur la biodiversité. En fait, cette quantification, elle est très peu précise. Elle est basée en fait, sur des modèles mathématiques avec quelques prélèvements qui ont été faits dans certains fleuves. Aujourd'hui, on a besoin de revenir dans ces différents fleuves et on pense certainement que les apports des fleuves de l'Europe, par exemple, est complètement sous-estimé.
On sait déjà des choses.
Alors la chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que 80% de la pollution qui arrive en mer vient des fleuves. On sait qu'on a 10 fleuves majeurs qui apportent essentiellement en Asie beaucoup de plastique, mais on sait beaucoup moins en fait de choses sur l'Europe qui apporte aussi énormément de plastique, mais plutôt sous forme de microplastique. Et on sait que ces microplastiques vont avoir un effet très important en fait sur les animaux après.
Mais du coup, ils arrivent d'où s'ils sont déjà en tout petits morceaux ?
L'impression qu'on a quand on voit un fleuve, c'est que les polluants ils viennent tout de suite de la ville d'à côté. La réalité des choses, c'est qu'un plastique a une durée de vie très très longue et il a largement le temps d'arriver d'une montagne, de tomber vers une rivière et d'arriver dans le fleuve vers la mer. Et pendant toute cette vie, en fait, il va avoir le temps de se fragmenter, de se casser en morceaux et d'arriver sous forme de microplastiques déjà en mer. Malheureusement, les océans ne peuvent pas absorber ces plastiques. On peut pas imaginer une dégradation par les micro-organismes, par exemple, qui seraient capables de manger du plastique. On sait très bien en fait que tous les plastiques qu'on est en train de mettre dans la mer, malheureusement, ils vont y rester pendant, on sait pas trop, 100 ans, 400 ans. Mais en tout cas, c'est clair que toute la pollution plastique qu'on est en train de créer aujourd'hui, on la laisse pour nos enfants et nos petits-enfants.
Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent.
Vous, Alexandra Terral, vous êtes chimiste et du coup, vous avez procédé à d'autres analyses sur ce plastique.
Alors déjà, j'identifie la nature de ces plastiques. Donc, on peut les classer par grandes familles de résines.
Par exemple.
Alors, il y a le polyéthylène qui sert à faire tous les sacs plastiques pour les courses. Mais c'est aussi, on s'en sert beaucoup pour faire des containers, des flacons de shampoing, de nourriture, pour la javel aussi. Donc, quand on va dans la salle de bain, la plupart des flacons qu'on a, ils sont en polyéthylène et dans la cuisine aussi. Il y a le polystyrène expansé qui sert beaucoup pour l'emballage, aussi bien pour la nourriture que pour les objets de la vie courante. Il y a le polyéthylène téréphtalate qui sert beaucoup pour faire les bouteilles de soda. Donc déjà, ce que je fais, c'est que j'identifie la nature des plastiques par spectroscopie infrarouge. Et ensuite, j'étudie comment ce plastique vieillit dans l'environnement. C'est principalement sous l'effet de la lumière. Et puis, il y a aussi des forces mécaniques qui vont le casser en petits morceaux. Et ensuite, je développe des outils analytiques pour aller doser les particules de plus en plus petites à l'échelle du micron et à l'échelle du nanomètre. C'est-à-dire 1000 fois plus petit que les microplastiques et 1 million de fois plus petit que les microplastiques.
Pourquoi c'est important d'aller jusqu'à cette toute petite échelle ?
Alors déjà parce que plus ces plastiques sont petits et plus ils vont interagir avec la base de la chaîne alimentaire. Et on sait maintenant par des études en laboratoire qu'il y a un transfert dans la chaîne alimentaire. Et puis quand on est à l'échelle du nanomètre, les particules, elles ont des propriétés physico-chimiques très particulières et elles peuvent passer certaines membranes cellulaires et donc rentrer dans les cellules, se déplacer dans l'organisme.
Et donc constituer un potentiel danger.
Oui, ça a des impacts potentiels toxicologiques qu'on n'a pas encore clairement évalués.
C'est vraiment une recherche qui démarre, enfin un champ d'investigation qui démarre en fait, hein, la toxicité de ces nanoplastiques.
Oui, c'est des choses qui sont assez nouvelles. Alors la plupart des études en laboratoire se font avec des nanosphères modèles qui sont très différentes des particules qui vont se former dans l'environnement. Mais comme on n'a pas encore bien compris comment elles se formaient dans l'environnement et quelle est leur nature, on n'est pas encore prêt pour faire les études toxicologiques sur des particules plus proches que ce qui se passe dans l'environnement. Et les premières études laissent penser que Ces évaluations toxicologiques sur les nanosphères, elles sous-estiment la toxicité potentielle des nanoplastiques qui se forment dans l'environnement.
D'où l'importance pour vous des prélèvements que vous allez faire à bord de Tara.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment important de faire ces allers-retours entre le terrain, le milieu naturel et le laboratoire. Sur le terrain, on comprend ce qui se passe et comment se fragmente le plastique et quelle est la nature des particules. Et ensuite, on revient au laboratoire et on essaye de reproduire ça pour pouvoir préparer des particules qui vont servir aux toxicologues pour faire des évaluations plus proches de la nature, en fait, des conditions naturelles.
Toxicologie sur les organismes vivants, les poissons, mais éventuellement plus loin.
Alors, c'est des études d'écotoxicologie sur des organismes de référence ou du milieu aquatique ou du milieu marin. On ne fait pas d'études sur l'être humain.
On retrouve Jean-François Guiglione, le chef de l'expédition.
Alors, rentrez par là. On va fermer la porte. Alors là, on est dans le dry lab. C'est un laboratoire qui est sec. Ici, ne viennent pas les échantillons qui sont mouillés parce qu'on est à l'intérieur du bateau et on ne va pas commencer à mettre de l'eau dans le bateau. Sinon, les marins ne seront pas contents non plus. Donc ça, c'est l'atelier. Et les marins sont sympas et nous laissent nous servir de tous les outils parce que c'est le moment de revisser, de tout installer pour que ça tienne bien.
Ce qui est incroyable, c'est que jusqu'au dernier moment, quoi, vous avez des choses à faire.
Ouais, de toute façon, on a toujours des choses à faire. Mais globalement, je suis hyper satisfait. Ça s'est bien passé. Là, le départ, on est prêt, quoi.
Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inconnus ? Parce que remonter les fleuves et faire ces prélèvements dans les fleuves, dans les estuaires, ça n'a jamais été fait.
Ouais, alors, c'est des choses où on est moins spécialiste. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des scientifiques locaux pour qu'ils nous disent leur expérience qu'il y a déjà sur les fleuves. Le gros problème pour nous, c'est la marée. On va vraiment lutter contre la montre avec la marée à chaque fois. Il faut qu'on se trouve à marée haute pour pouvoir monter un gros bateau comme le bateau Tara. En même temps, on va mettre à l'eau le petit Zodiac, un zeppelin, qui va nous permettre de faire des échantillonnages en plus que le bateau. Et puis après, on va des fois aller à des endroits à pied. Et ça, c'est un peu l'inconnu parce qu'on a tout planifié, on sait à peu près comment ça va se passer, mais après, ça dépend vraiment à la fois de la météo, à la fois du courant qu'on va avoir pendant ces marées. Voilà, il y a certaines incertitudes, ça c'est évident, mais c'est un peu le challenge à chaque fois et on va y arriver. Ouais. Ce qui n'est pas forcément facile, c'est qu'on a tout sorti et maintenant il faut tout ranger. Parce que dès qu'on va partir en mer, il va y avoir de la houle et il ne faut pas que la loupe elle tombe, il ne faut pas que tout ce qu'on a mis sur les paillasses tombe. Donc on a tout organisé et maintenant on va tout ranger.
Nous sommes dans le carré du bateau, l'espace de vie commune, où Stéphane Pézan a étalé devant lui des tas de fiches cartonnées. Il est océanographe à l'université de Brême.
Alors les fiches, on s'en sert pour bien documenter la provenance et le contexte de tous les échantillons. Donc chaque échantillon, chaque petite bouteille qu'on va générer, va avoir une étiquette avec un code à barre, en notant bien la date et l'heure à laquelle ils ont été échantillonnés, latitude, longitude, la profondeur, tout ce qui est nécessaire à la provenance.
C'est un peu comme quand on va faire une analyse de sang, on vous met
oui,
les codes barres sur le tube. Hein.
Exactement.
Et donc vous mettez le lieu, l'heure
et ben, évidemment le numéro de la station qui a échantillonné, le nom des chercheurs, le type d'engin utilisé pour récolter, la vitesse du vent, la direction du navire. Donc, selon les protocoles, il y a différentes informations dont on a besoin pour l'analyse des échantillons. Donc, il existe plusieurs bases de données en Europe, internationalement aussi, mais nous, on utilise des bases de données européennes. Tout ce qui est séquençage, tout ce qui est génomique est archivé en Angleterre et tout ce qui est environnemental est archivé à Pangea, qui est une base de données allemande.
Mais finalement, une fois que toutes ces données sont dans la base, n'importe quel scientifique qui a une question peut y avoir accès et puis essayer de
tout à fait.
Trouver quelque chose, de faire parler ces données.
Et d'avoir accès aux données de séquençage ou aux données environnementales, c'est une chose, mais il faut comprendre le contexte, d'où l'importance de nos fiches.
On est dans le carré de Tara, devant trois couvertures de publications, oui. Science, Nature et Cell, qui sont trois grandes revues scientifiques. Tout ce qui est publié là-dedans, ça sort de vos fiches ?
Oui, tout.
Pour nous, béotiens, c'est un peu magique.
Ben, c'est un peu magique. Il y a toute une équipe derrière.
Okay, vas-y. Je peux, s'il te plaît ?
Le cheveu,
Est-ce que Mathieu est prêt?
Hein? Il est là.
Est-ce que Mathieu est prêt?
Ouais, ouais, il est attaqué max.
Interception.
La balle 69. On a l'érotique.
Sur France Inter.
Il est 22h, la nuit tombe et Tara quitte Saint-Malo, direction Londres, sur la Tamise, au pied de Tower Bridge.
Mathieu, faut peut-être remonter les pare-battes un peu.
Nous devons naviguer 48 heures et nous devons faire des prélèvements en trois endroits distincts selon un protocole bien précis, c'est-à-dire en pleine mer, à l'embouchure des fleuves et plus en amont quand l'effet de marée s'estompe et que l'eau perd toute salinité.
On ramène le set de clés plates et...
Ouais.
Tout l'équipage est sur le pont, bien sûr, les marins comme les scientifiques, puisque sur ce navire, tout le monde met la main à la pâte.
Je commence à dévisser la poulie.
All stations, all stations, all stations. This is Dover Coast Guard, Dover Coast Guard, Dover Coast Guard. Gale warning for sea areas, Humber, Dover and White. Humber, northeasterly, gale force 8, expected later.
Que ça parlait d'un gale warning, donc coup de vent, force 8, et je suis pas sûre du secteur, sud-est ou sud-ouest. Sinon, on a le fichier météo, c'est pratique aussi. Je m'appelle Charlène Jiquel et je suis marin à bord de Tara. Là, ma position à bord, c'est chef mécanicien. Donc, je m'occupe de la partie technique du bateau, hormis les équipements scientifiques qui sont gérés par les scientifiques eux-mêmes. Et puis, comme c'est un tout petit bateau, on est tous assez polyvalents sur Tara. Et donc, je fais aussi du car.
C'est un voilier. Et là, par exemple, on marche au moteur. Pour quelle raison?
Eh bien, parce que les conditions météo sont pas vraiment favorables. On fait route au nord. Le vent est de nord, au moins. Et puis en plus on vient de traverser la Manche, donc on a besoin de manœuvrabilité dans ces moments-là. Puis on a aussi un timing à respecter. On pourrait s'amuser à tirer des bords, mais on nous attend à Londres, on a des prélèvements effectués sur la Tamise. On fait de la voile autant qu'on peut parce qu'on a quand même un souci environnemental et d'économie de gasoil. Mais quand on n'a pas le choix, ben, on motorise.
Pourquoi pour vous c'est un bateau un peu à part?
Ben, c'est un bateau à part parce que c'est un des rares navires professionnels sur lequel je trouve un compromis entre ma passion pour la voile, mon métier de marin marchand et puis une activité assez éthique, quoi. On fait de la science à bord, on ne transporte pas des boîtes, on ne transporte pas du pétrole, on ne transporte pas des richissimes croisiéristes, on fait quelque chose qui a du sens, quoi. Donc c'est quasiment le seul bateau qui offre ce compromis, quoi. Alors sur Tara, donc tout ce qui est prélèvement scientifique impose des manipulations un peu lourdes. Et donc toutes ces opérations, elles sont sous la responsabilité des marins, quoi. En général, les scientifiques manipulent pas trop les bouts, les charges lourdes. Nous, on est vraiment là pour mettre en œuvre leurs équipements, pour les aider à mettre en œuvre leurs équipements. Et puis après, tout ce qui est process d'échantillons, traitement des prélèvements, tout ça, c'est vraiment les scientifiques qui s'en chargent. Mais donc, c'est vraiment une coopération, quoi. C'est sûr que les scientifiques ne pourraient pas prélever sans notre compétence. Et à l'inverse, leur aide est toujours la bienvenue sur tout ce qui est vie quotidienne à bord, manœuvre des voiles quand on navigue à la voile. Donc c'est très agréable sur ce bateau parce qu'il n'y a pas de cloisonnement. On vit tous ensemble, les espaces communs sont très limités, donc on ne peut pas cloisonner les scientifiques d'un côté, les marins de l'autre. Jusqu'au plan de couchage, où on ne fait pas des cabines de marins et des cabines de scientifiques, mais on se mélange tous. Ils participent aussi au quart la nuit, donc on a des heures... pour discuter les uns avec les autres.
Là, j'ai un navire en face de moi qui fait une route directement opposée à la mienne. On appelle ça un contrebordier.
Donc, dans ces cas-là, on fait en sorte de ne pas se rentrer dedans. C'est plus confortable.
Où est-ce qu'on se trouve, là, Charlène ?
Alors, on est dans la Manche, à l'endroit le plus resserré entre Calais et Douvres. Donc, on est tout près des côtes anglaises, qu'on voit, d'ailleurs. Et d'ici 2 heures, 3 heures, on sera vraiment sur l'embouchure de la Tamise.
La plupart du jet est demandé au carré.
Donc, on a changé un tout petit peu le programme. Au lieu de faire le prélèvement à 6 heures, on va le prélever plutôt vers 2 heures de l'après-midi. Parce que finalement, on a bien avancé et puis on va réussir à arriver à marée basse. Donc en marée basse, du coup, toute l'eau va sortir du fleuve et c'est le moment où on aura le plus de plastique certainement. Il est quelle heure là ? Midi 23 ?
Non, 11h23
en anglaise. 11h23 en anglaise, ok, donc ça va. Alors le premier point de prélèvement est situé en mer. Parce que c'est notre repère un petit peu qu'on veut comparer avec ce qui se passe dans les fleuves. Et le deuxième, il va se situer juste à la sortie, on appelle ça l'estuaire, c'est juste à la sortie du fleuve. Et puis après, on va avoir les autres points qui seront vraiment dans le fleuve pour comparer avec tout ça. Voilà. Allez, ça y est, la mission est lancée.
On y est, c'est l'heure du premier prélèvement.
J'ai débordé.
Nous sommes maintenant sur le pont arrière de Tara. Mathieu et Martin mettent à l'eau une bouteille de prélèvement d'eau de mer. Et à tribord, Jean-François, lui, s'occupe avec Nicolas et Lucas des deux filets qui seront traînés pendant 30 minutes pour collecter le plastique de surface.
On l'envoie à quelle profondeur ?
Surface.
Là, on est en train de prélever de l'eau. L'idée, c'est d'explorer le plancton qui est devant la Tamise et pour ensuite pouvoir le comparer avec le plancton qui vit sur le plastique.
Bonjour.
Vas-y, lance.
Concrètement, vous avez mis à l'eau une bouteille.
Bon, on a mis une bouteille qui peut se déclencher à différentes profondeurs. Donc on choisit la profondeur, ensuite on envoie un messager qui va claquer la bouteille et comme ça, on va récupérer l'eau simplement. Okay. C'est Stéphane qui a les bouteilles.
On rince les bouteilles pour être bien certain d'enlever tous les résidus de l'échantillonnage d'avant. Donc on rince 3 fois, c'est la règle.
Stéphane,
oui.
Tu vas me donner un échantillon ?
Oui.
Au microscope ?
Oui.
Tu vas essayer de trouver quelque chose de vivant dedans.
Oui, je suis certain.
Alors, je m'appelle Chris Paula, je suis britannique d'origine et je travaille à l'École normale supérieure à Paris. Je suis chercheur CNRS et je m'occupe du phytoplancton, notamment les diatomées, dans le laboratoire. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille avec Tara pour essayer de comprendre c'est quoi le plancton, quel est le rôle du plancton dans l'océan, quel est leur état actuel face au changement climatique, etc.
À l'heure où Tara se concentre sur le plastique, qu'est-ce qui vous intéresse dans la relation entre le plancton et le plastique ?
Le plastique fait partie de l'écosystème marin aujourd'hui. Il y a 100 ans, ça n'existait pas. Mais c'est une nouvelle plateforme à laquelle la vie peut s'attacher et rester en surface. Donc pour un organisme photosynthétique, ça peut être convenient. Avoir les morceaux de plastique avec lesquels ils peuvent s'attacher pour rester en surface.
Comme un radeau.
Oui. Donc on ne sait pas quel est le lien entre le plancton et ce nouveau écosystème qui s'est créé autour du microplastique dans l'océan. Il y a énormément de choses d'aller découvrir dans ce sens-là. Et ça donne une possibilité de voir l'évolution en action. Donc maintenant, les scientifiques doivent essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a aussi les possibilités de trouver les solutions pour enlever le plastique de l'océan ? Ou est-ce que peut-être on peut trouver les enzymes qui décomposent le plastique en étudiant les organismes qui s'attachent au microplastique? Peut-être ils ont évolué les systèmes de décomposition de plastique qu'on pourrait éventuellement bénéficier pour nettoyer un peu l'océan.
Vous
dans le laboratoire humide avec Jean-François Guiglione. Qu'est-ce que c'est que cet échantillonnage-là?
Alors, on a déployé nos filets. Et dans nos filets, on a trouvé pas seulement des plastiques. Heureusement, il y a encore de la vie. Et là, par exemple, on trouve une algue qui s'appelle Fucus vesiculosus. Donc ça va être particulièrement embêtant parce qu'à chaque fois qu'on va trouver ce type d'algue, il va falloir la passer avec une petite pincette pour enlever les petits morceaux de plastique qui sont dessus les uns après les autres avant de faire le tri.
Là, vous rincez les algues une à une.
On rince les algues une à une pour bien être sûr de récupérer tous les plastiques parce qu'on veut vraiment quantifier les plastiques, on veut savoir combien il y en a. Et pour ça, il faut qu'on soit le plus exhaustif possible. Donc il faut tout nettoyer. Ouais. Là, on voit plein de méduses. Et à l'intérieur des méduses, de plus en plus, on trouve des plastiques. Donc il faut aussi bien les nettoyer. Sans se brûler les doigts. On a pas mal de méduses, regarde.
Hey. J'en ai une dans le pot du F300 pour le zooscope.
Si, je les adore. Je sais pas comment elles s'appellent, mais elles sont très belles.
Dans le bac, côté bâbord, non, tribord, il y a une chaudière.
Une casserole?
Non, une chaudière. Au Québec, c'est une chaudière. Je vais aller la chercher, ça va être plus clair.
Ouais, j'adore. Une chaudière, qu'est-ce qu'il doit pouvoir dire? Il a trouvé un poêle à bois au fond du bateau.
Cocotte-minute.
Bouillotte.
S'appelle un seau, en français.
Un seau, voilà, une chaudière.
T'appelles ça une chaudière?
Pas juste moi.
D'accord.
On est à peu près 7 millions.
Ok, ben ouais, c'est super. On aura besoin.
J'espère que ça va pas être comme ça demain, enfin cette nuit, pour la remontée, quoi.
Ouais, c'est merdique.
Attention, volte-face tout à droite.
Okay. Martin de Mathieu, paré à mouiller.
De Maillon.
Go.
France Inter. Interception.
À la soupe.
Le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes toujours à bord de la goélette Tara qui traque le plastique dans les fleuves. Les premiers prélèvements d'eau ont été faits. Maintenant, il faut transvaser le contenu des bouteilles et des filets au laboratoire humide pour le filtrer. Et ensuite, direction l'intérieur du bateau dans le laboratoire sec pour une séance de tri des particules de plastique. Nous retrouvons Sophie Bécherel en pleine nuit, en compagnie de Jean-François Guiglione, le chef d'expédition, et d'Alexandra Terhal, la chimiste.
En train de nettoyer le collecteur de plancton avec une brosse à dents. Sur le bateau, on fait avec les moyens du bord.
La pêche, elle était bonne?
Ouais, il y avait beaucoup de morceaux de plastique. Là, on est juste dans l'estuaire de la Tamise, et à première vue, comme ça, il y avait une dizaine ou une vingtaine de morceaux de plastique. Bon, on va aller regarder ça plus finement sous la loupe.
Alors on va aller voir ça d'un peu plus près dans le dry lab.
Ce qui m'impressionne, à chaque fois qu'on fait des prélèvements d'eau, à chaque fois j'ai la surprise, je me dis, est-ce qu'on va vraiment trouver du plastique? Et malheureusement, on en trouve à chaque fois, systématiquement, quoi. Et là, cette station-là, elle a l'air particulièrement bien garnie. Alors, il y en a certains qu'on reconnaît. Ça, typiquement, c'est du polystyrène expansé, il flotte. On en a partout, ça. Polystyrène expansé, c'est tous les emballages qui servent, par exemple, en dessous, les barquettes qu'on met pour la viande ou aussi les emballages qui sont utilisés par les pêcheurs pour conserver les poissons. Donc c'est un plastique qui est très pratique. Malheureusement, on en retrouve vraiment beaucoup. Et dès qu'on s'approche des côtes, on a des grosses concentrations de polystyrène expansé d'habitude. Ensuite, chacun de ces morceaux de plastique, un par un, on va les trier et on va les mettre dans un tube. Donc chacun va avoir son petit tube Et ensuite, on va mettre ce tube dans l'azote liquide. Donc, c'est des températures qui sont très très froides et qui nous permettent de congeler les échantillons très très vite. Et ça, ça permet de garder l'intégrité des cellules qu'on va regarder ensuite. Donc ça sera ensuite envoyé dans les différents laboratoires et après on va aller fouiller jusqu'à l'ADN de ces petits planctons qui s'accrochent sur le plastique pour pouvoir les identifier. Ils sont beaucoup plus faciles à attraper que tout à l'heure. Alors c'est un travail qui est très 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 fastidieux. Cet après-midi, là, quand on a fait le premier point où les plastiques étaient tout petits, il a fallu que je tire pendant à peu près 3 heures. Le prélèvement, on l'a estimé à 2 heures, donc on a 3 heures ensuite, ça fait à peu près 5 heures de travail à chaque station. Donc là, il est 10 heures, ben, je pense que j'aurai fini vers minuit et demi, 1 heure du matin. Donc pendant ce temps-là, les marins ils sont en train de dormir, c'est pour ça que je parle doucement. Parce que vers 3 heures du matin, quand moi j'irai me coucher, eh ben, ils vont bouger le bateau. Et on va remonter la Tamise, parce que là, pour l'instant, on est à l'ancre. Donc le bateau n'arrête pas de travailler, en fait.
Qu'est-ce que ça signifie, le fait que la vie colonise ce plastique ?
Déjà, d'un point de vue écologique, c'est assez surprenant de voir une telle diversité d'organismes qui se mettent sur les plastiques. On pensait qu'il y ait quelques micro-organismes qui soient vraiment des spécialistes de l'attachement. Et en réalité, on a une très très grande diversité de micro-organismes qui s'installent dessus. Alors, savoir comment ils arrivent à vivre les uns avec les autres sur un nouvel habitat, ça nous intéresse d'un point de vue écologique, mais au-delà de ça, sur ces plastiques, on a deux autres choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il y a des organismes qui sont pathogènes, donc qui peuvent transmettre des maladies. Et finalement, on croyait qu'il n'y en avait pas tant que ça en mer, et on en trouve beaucoup. Il y a, sur certains plastiques, il y a un quart de la diversité des espèces qui est éventuellement pathogène. Et ça, on travaille dans les laboratoires en ce moment pour savoir si ces espèces pathogènes, par exemple, si elles sont mangées par un poisson, puis après relâchées par ses fesses, est-ce que ça ne va pas rendre malade un autre poisson derrière ? Et est-ce que ça ne va pas créer des épidémies, par exemple ? Donc ça, c'est le premier aspect de ces organismes qui vivent sur les plastiques. Le deuxième aspect, c'est de savoir est-ce qu'ils sont capables de dégrader ces plastiques. Et pour ça, de la même manière, en fait, le fait d'avoir leur nom, ça nous donne une idée de savoir est-ce qu'on a trouvé un organisme dans notre laboratoire qui était capable de le faire et est-ce qu'on le retrouve sur ces plastiques. Et oui, en général,
ce que vous avez déjà pu montrer, c'est qu'en laboratoire, il se trouve des bactéries capables de manger le plastique.
Alors ça, effectivement, on est capable, en laboratoire, de dégrader du polyéthylène. Mais c'est des conditions de laboratoire où les micro-organismes sont un peu chouchoutés, ils sont à une bonne température, avec la bonne lumière, et surtout ils sont tout seuls. Ils sont pas en compétition avec d'autres espèces. Et du coup, en général, les bactéries du laboratoire qu'on essaie de remettre dans l'environnement, elles meurent assez vite. Donc ça peut malheureusement pas être une solution en fait pour essayer de dégrader les plastiques en mer.
Tu vois, ce petit morceau transparent là, pour moi c'est du polyéthylène basse densité.
C'est vrai ?
Mmh. Et toi ?
Carcasse de bestiole.
T'es sérieux ?
Ouais. J'ai l'impression d'un cartilage là.
C'est vrai ?
Ouais. Comme un truc, comme un autre plastique.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Où est passé le 7 ?
On va faire une pause ?
Ben, je sais pas quoi te dire. Si on fait des pauses, on n'avancera pas. Non,
je vais m'arrêter 5 minutes.
Tu t'arrêtes 5 minutes ?
Ouais, j'en peux plus. J'arrive pas à réfléchir. Hop. Travail de fourmi.
C'est assez incroyable d'avoir fait le tour du monde avec Tara et maintenant d'arriver sur Londres et d'arriver par voie fluviale, c'est encore plus fort et je pense qu'on est tous émus d'être là tous ensemble avec ce bateau mythique.
C'est assez magique en fait toujours d'arriver quelque part en bateau déjà, mais d'arriver au cœur de la ville comme ça et de changer complètement de décor. On est passé par la campagne, toutes les zones industrielles de transport maritime. Et là, on est vraiment au cœur de la ville. Là, c'est un peu un privilège quoi, de se balader sur la Tamise comme ça. Il y a une énorme usine sur la gauche, là. Puis il y a Wembley derrière, quand même. Ça fait toujours penser à Queen. Il y a des décors de... On est dans un James Bond, un peu, là. On va voir le M6 dans pas longtemps.
On a un capitaine assez facétieux, il a trouvé la musique de James Bond. Marina Sainte-Catherine, où est amarré Tara, pour rejoindre le pont Queen Elizabeth, où les scientifiques Stéphane et Alexandra vont procéder à un prélèvement sur la Tamise avec leur filet de différentes mailles. Et on en a pour une heure de Zodiac.
Allez, route sur le pont. Et voilà déjà du plastique. Eh ben. C'est bon, vous êtes parés?
Oui.
On va sur la Tamise, prélever du sédiment. Non, des microplastiques. Allez. T'accroches, hein? J'y vais progressif. J'espère qu'il a de la sauce, ce bateau, parce que... Ok. Accroche-toi, Noélie, tu vas voler, là.
À peu près une heure de navigation sur le Zodiac, on est arrivé sous le pont où on va faire cette série de prélèvements. C'est un milieu assez industriel avec pas mal de trafic sur la Tamise. Le fleuve a l'air assez propre, mais comme il fait nuit, on ne sait pas trop. Donc on verra ce que donnent les prélèvements d'une minute et 30 minutes avec les filets aux différentes mailles.
Alors on est parti avec le filet à 300 microns et on va filtrer l'eau pendant... une demi-heure, on va remonter tranquillement la Tamise. On va filtrer à peu près 100 000 litres d'eau pour récupérer un nombre de microplastiques significatif pour pouvoir faire des calculs de concentration, pour pouvoir faire des études de caractérisation.
Au-delà de la quantité de microplastiques par litre d'eau, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ?
Alors moi, en tant que chimiste, je veux savoir quel genre de plastique c'est, parce qu'on peut ainsi essayer de comprendre leur origine. Par exemple, hier soir, on a vu beaucoup de microbilles qu'on retrouve dans les cosmétiques. Donc voilà, on peut directement identifier une source. Ensuite, je vais regarder l'état de vieillissement de ces plastiques pour comprendre comment ils ont évolué dans l'environnement. Leur fragmentation aussi, essayer de comprendre comment ça se fait qu'ils se cassent en morceaux de plus en plus petits. On va aussi... doser des polluants avec lesquels les plastiques vont interagir. Parce qu'on sait qu'il y a certains polluants de l'environnement qui ont une grande affinité avec les plastiques et qui vont se fixer dessus. Par exemple, pour les polychlorobiphényles, l'affinité de ces molécules avec le plastique est telle qu'au final, la concentration sur plastique sera un million de fois plus importante que dans l'eau environnante. Donc ensuite, quand les animaux mangent ces plastiques sur lesquels sont venus se concentrer ces polluants, il peut y avoir un transfert éventuel dans l'organisme de ces animaux. Et ces substances sont souvent bioaccumulatrices, donc ensuite il y a une amplification le long de la chaîne alimentaire.
On va un petit peu de la côte là, parce qu'il y a un énorme cargo là qui arrive.
Interception sur France Inter.
Les scientifiques de l'expédition Tara traquent le plastique dans les fleuves et les océans, mais aussi le long des côtes. C'est la biologiste Leila Mestertsheim qui s'en charge. Avec ses équipes, elle a placé des casiers remplis de moules sous la grande jetée de Southend Sea. C'est une station balnéaire du sud-est de l'Angleterre, à 70 km de Londres.
C'est le sixième pilier en partant de cette zone-là. Donc ça correspond en fait à une zone où les moules sont dans l'eau et les plastiques dans l'eau, même quand la marée est basse. Donc on va aller jusque là-bas les chercher, donc on va sectionner les cages directement sur la zone. Et elles seront normalement, au vu de la profondeur là, elles devraient être à sa dos. Donc à Southend Sea, la salinité est de 33 pour 1000. On est juste à l'entrée de l'estuaire en fait, de la Tamise. Donc on va avoir une zone où la mer en fait, commence à rencontrer un petit peu l'eau douce. Donc on a une diminution en fait, de l'effet de la mer. Et donc à cet endroit-là, on a placé des moules qu'on avait récupérées sur place également. Et on y a ajouté des microplastiques. Et ce, pendant un mois, donc des microplastiques dont l'origine était connue. Donc c'est des échantillons à nous. Et ces moules, on les a marqués avec ce qu'on appelle de la calcéine, ce qui permet de suivre leur croissance. Donc un mois plus tard, pendant que le bateau est là et que ce bateau permet d'avoir l'ensemble des données dans l'eau environnante, donc les mesures de différentes tailles de microplastiques, toutes les données que Tara permet d'obtenir, eh bien nous on récupère ces cages et ça nous permet en fait d'avoir le un mois avant Tara en gros. Et on va dessus travailler sur la bioaccumulation des plastiques dans les moules, on va travailler sur l'effet de santé de la moule elle-même, est-ce qu'elle a arrêté de grandir ? Le fait qu'on l'ait déplacée et mis là, est-ce que c'est un problème pour elle ? Et on va également travailler sur les petits plastiques qui ont été mis dans des pochons dans cette cage également. Et là, l'idée, c'est de regarder quels vont être les organismes qui vont coloniser ce support que nous connaissons. Et ce support, est-ce qu'on va trouver plus d'agents pathogènes ? Est-ce qu'on va trouver plus d'espèces exotiques ? Ou est-ce que c'est à peu près un biofilm classique qu'on retrouve partout dans tous les océans ?
Pourquoi les moules précisément ?
Donc les moules, c'est un très excellent modèle biologique, déjà parce qu'il est facile. On le trouve partout. C'est une espèce qui est présente partout en Europe. Donc il y a une espèce en gros qui fait l'Atlantique et une autre espèce en Méditerranée, mais c'est le même genre, hein, qui réagit à peu près pareil. Et c'est surtout des organismes qui sont filtreurs de la colonne d'eau et sont des bouches ouvertes, en fait, parce qu'elles bioaccumulent tout et elles font pas le tri. Et comme elles font pas le tri, en fait, l'idée, c'est de les utiliser comme un bioaccumulateur, en fait, des différents types de petits plastiques, et de les utiliser, en fait, pour mesurer l'effet de ces microplastiques comme sur l'environnement, donc de les quantifier, comme on le fait aujourd'hui déjà pour les pesticides. Donc ces modèles, on les utilise déjà pour mesurer les pesticides dans l'eau de mer. Donc en termes de valeur, pour l'instant, dans l'estuaire, on n'a aucune idée de la valeur de microplastiques qu'on va pouvoir obtenir sur ces organismes. Et l'idée, justement, ça va être ça. Ça va être d'avoir un premier état des lieux avec un bio-indicateur, une espèce sentinelle de l'environnement.
Nous sommes à présent à Bagnouls-sur-Mer, au sud de Perpignan. C'est là, au laboratoire d'océanologie du CNRS et de Sorbonne Université, que travaille Jean-François Guiglione. À mi-parcours de l'expédition, il a rapatrié les premiers échantillons, les a mis au congélateur pour bientôt commencer l'analyse.
Et je ferme vite le congélateur parce que j'ai vraiment peur que tout ça soit pas bien conservé.
Les premiers résultats arriveront dans un an environ. Même chose pour Leila Mestertheim. Elle aussi travaille à Bagnouls. Elle y a rapatrié également ses échantillons, ses moules. Et nous lui avons demandé quel pourrait être l'impact de cette pollution plastique sur notre santé.
Donc aujourd'hui, on n'a pas assez d'informations pour dire si ces microplastiques absorbés par notre alimentation ont un effet sur l'état de santé de l'être humain. Mais par contre, on sait que ces microplastiques ont un effet très fort sur des organismes marins. Donc ça va, par exemple, pour certaines espèces, ils vont récupérer ces microplastiques en pensant qu'il s'agit de quelque chose qu'ils peuvent assimiler, dont ils peuvent tirer de l'énergie, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, une fois qu'ils l'ont avalé, il va falloir essayer de s'en débarrasser et donc dépenser une énergie supplémentaire, finalement, pour réussir à s'en débarrasser encore. Donc c'est des organismes qui, en gros, typiquement, ils auront moins d'énergie pour leur système immunitaire, donc ils seront plus sujets aux maladies. Ils auront moins d'énergie également pour grandir. Ça, c'est le premier état physiologique qui est remis en cause. La reproduction aussi peut être effectivement très touchée. Donc on sait que ça va influencer chez l'huître. Ça influence le nombre d'œufs qui est produit par une femelle. Donc on sait que globalement, les microplastiques aujourd'hui ont une influence sur ces organismes-là. Ils touchent leur métabolisme, ça touche leur physiologie et dans tous les compartiments. Donc au mieux, aujourd'hui, ça touche ces stocks-là et en fait, ça touche notre nourriture.
Au pire, c'est également ces microplastiques-là qui peuvent nous influencer, nous, parce qu'on en avale de plus en plus, et qui pourraient également influencer notre système immunitaire, notre réserve énergétique, puisque du coup, il va falloir réussir à les éliminer. Aujourd'hui, c'est des données qu'on n'a pas du tout, donc on ne sait pas du tout si l'espèce humaine est réellement touchée par ces plastiques-là, mais ce qu'on sait, c'est que les organismes que nous consommons, eux, sont touchés.
La goélette Tara se trouve actuellement à Monaco, où se tient jusqu'à samedi prochain la 51e session du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Cette session sera entièrement consacrée aux océans. Tara sur la piste du plastique, c'était un reportage de Sophie Bécherel et Fabien Gosset. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier. Mixage Bruno Mourlan. À la semaine prochaine.